notre 16e talk, nous avons eu la chance de recevoir Charlotte Cosson, qui nous a raconté son parcours au son de sa douce voix. Historienne de l'art, amoureuse vivant et guérisseuse par la transe à Ferral, lieu de vie de 2,6 hectares dans le Luberon, le tout dans un lieu insolite, la grotte du Shavasana. Merci à Charlotte et Jean-David de nous avoir accueillis chez eux. Et bien sûr, merci à Lily pour ses délicieux cocktails. Très belle écoute!
Bonsoir! C'est bon d'être entre femmes, ça change! Donc merci bien sûr à Charlotte et à toute l'équipe du Curiosity Club pour cette invitation. Enfin merci, mais quand même c'est un peu stressant parce que moi je suis très habituée à donner des conférences assez carrées sur l'histoire de l'art, maintenant sur l'amour du vivant, à parler de mon livre. Et là vous mettez dans une position nouvelle, donc c'est magnifique, celle de parler de mon parcours. Puis au début, en plus, j'ai un peu dit, moi, j'ai pas très envie de parler de mon enfance. Et m'ont dit, non, c'est quand même bien de faire un thérapie d'enfant. Et c'est un exercice passionnant parce que je pense qu'on se raconte toujours des histoires sur nous et on raconte toujours une nouvelle histoire, finalement. Et on peut tirer un fil, mais on peut en tirer des centaines d'autres. Donc là, je vais essayer de tirer un fil. Mais il est aussi vrai et aussi faux que tous les autres fils que j'aurais pu tirer. Et pourquoi j'avais pas très envie de parler de mon enfance? C'est parce que je m'en souviens pas très bien. Voilà, je me souviens pas très bien de mon enfance. Vous comprendrez pourquoi peut-être plus tard. Mais aussi loin que je cherche dans ma mémoire, je me rappelle que j'étais pas du tout d'accord avec tout ce qui se passait autour de moi. Tout était un peu absurde, cette société avec des personnes qui meurent dans la rue. Nous, on avait le droit, nous, on mangeait très bien, et puis il y a des personnes qui mouraient de faim. Les règles parentales, mon Dieu, je ne comprenais vraiment pas, ça ne rentrait pas dans ma compréhension des choses. Et donc, je me suis toujours sentie en décalage, ça, c'est peut-être assez classique, hein. Je pense que je ne suis pas la seule dans cette salle. Mais il y avait des choses quand même qui me ravissaient, et c'était les insectes, les arbres et les livres. Ah, les livres, je pouvais m'évader dans les livres et c'était merveilleux. Et en fait, ça a donné une adolescence où j'étais très en colère, j'étais même très révoltée contre tout ce qui se passait dans cette société, le consumérisme, la montée de l'extrême droite, la société de consommation qui détruisait les arbres, etc. Donc j'étais très très en colère. Et si la colère a pris autant le dessus, c'est aussi parce que, de par mon hypersensibilité et parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans, je pense que plus ou moins consciemment, j'ai coupé en fait les autres émotions. Et donc la tristesse, la joie ne me traversaient que très peu. Voilà. Donc, mais j'avais gardé la colère qui m'a, je pense, permis de rester debout. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, il y a quelque chose qui a réveillé en moi une forme d'espoir, je pense. C'est quand j'ai découvert l'histoire de l'art. Et en fait, je n'ai pas découvert que l'histoire de l'art. Je n'ai pas découvert des œuvres magnifiques, puisque j'allais déjà j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient dans les musées. Depuis mon enfance, j'ai surtout découvert la passion d'hommes et de femmes. Mais bon, en histoire de l'art, vous le savez, on parle surtout d'hommes artistes plus que de femmes artistes. Donc c'est vrai que dans mon lycée, j'ai surtout entendu parler d'hommes artistes, je vais être très honnête. Mais d'hommes extrêmement passionnés et qui, en tout cas, au moins tout le long du XXe siècle, n'avaient pas été d'accord avec la société qu'on leur proposait et avaient eu la folie de penser que l'art pouvait changer les choses. Et donc, je suis entrée dans l'art comme on entrerait en politique. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être un peu changer les choses avec l'art. Puis peut-être que j'ai un peu déchanté et puis peut-être que maintenant, je retouche cet espoir. Voilà, il y a des moments d'inspire et des moments d'expire dans la vie. Et donc, je suis rentrée à fond dans le fait d'apprendre l'histoire de l'art. D'abord avec passion, avec délectation, et puis ensuite il a fallu percer dans ce milieu. Et là, en fait, l'intellectuelle que j'étais, puisque comme j'avais un peu coupé toutes les autres émotions, l'intellect, le mental était très, très, très présent, s'est engouffré dans le travail. Et je travaillais vraiment au début de ma vingtaine, jusqu'à assez longtemps, je travaillais encore beaucoup, mais vraiment jour et nuit, 7 jours sur 7. Je savais même plus ce que j'aimais faire en dehors. Et puis surtout, moi, je voulais changer le monde. C'est un peu démago. c'est un peu fou à dire comme ça. Mais je voulais changer le monde. Et en fait, dans les faits, j'étais assez peu alignée. J'étais entourée de personnes avec des égos énormes. Je vivais en ville. J'étais tout le temps en train de voyager pour donner des conférences, ouvrir des expositions. Et surtout, j'organisais des expositions temporaires. Et en fait, alors que ma conscience écologique ne faisait que monter, je mangeais plus que local, que bio, etc., je me rendais compte que j'organisais des expositions temporaires, donc avec des énormes empreintes carbone. On récupérait, j'ai organisé avec mon ancien associé Emmanuel Luciani une magnifique exposition, oui, je dis magnifique, mais sur le toit du Corbu, au MAMO. Il y avait des œuvres d'un artiste que j'adore qui s'appelle Urs Fischer, c'est des colonnes en bronze de 800 kilos qu'on a fait venir de Los Angeles. Et en fait, moi, à l'intérieur de moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est fissuré, en fait. Je ne pouvais plus continuer à être aussi peu alignée. Je parlais de l'amour des vivants, de la manière dont on devait vivre de manière écologique. Et de fait, dans mon travail, c'était pas du tout le cas, quoi. Je participais à la destruction de cette planète. Et donc, à 26 ans, c'est très jeune, j'ai fait un burn-out. Parce que je travaillais trop, parce que... Youhou! Donc c'est bien d'en rire après coup, mais c'était quand même pas très drôle, parce que toutes mes articulations se sont enflammées, et je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus répondre à un seul email. J'ai vraiment touché le fond, mon corps il a fait un shutdown complet. J'ai quand même réussi à lire, ça s'est resté quand même. Et au bout de 3 mois, quand ça a commencé à aller un peu mieux, j'ai poussé la porte d'un cours de yoga. Mais alors, je l'ai fait de manière très occidentale. Je me disais, bon, Charlotte, tu es beaucoup trop dans ton mental, là ton corps il a fait un shutdown, donc il faut arrêter la séparation nature-culture, corps-esprit et tout. Il est bien temps que tu reconnectes avec ton corps. Donc j'y suis allée vraiment avec tout mon mental en me disant... il faut que je me reconnecte avec ce corps. Là, il essaye de me parler, je ne vois pas les messages, je n'y arrive pas, je suis malheureuse dans ma vie. Et donc, j'ai commencé à faire du yoga, donc ça, c'était magnifique. Et puis, quelques mois, peut-être années après, j'ai eu la chance de croiser l'orque. Non, je ne la vois pas, mais elle est là. Elle est là. voilà. Et en fait, via l'or, j'ai rencontré le Natha Yoga. Qui est vraiment un yoga très spirituel, très, très profond. Et tout de suite, j'ai commencé à faire des expériences hors normes, à avoir des sensations extraordinaires. Donc, j'ai commencé à avoir des vibrations partout, à avoir des visions, à sentir mes chakras, alors que moi, je pensais que c'était vraiment... c'était une magnifique manière de... C'était la magnifique culture hindouiste, mais je ne pensais pas du tout que c'était une réalité physique qu'on pouvait percevoir. Et j'ai commencé aussi à avoir des moments où j'étais traversée par un amour fou pour tout. Et donc là, j'ai pris rendez-vous chez le neurologue. Parce que je me suis dit des vibrations partout, des visions, voir ce qui se passe après la mort. Je pense que j'ai une tumeur au cerveau. Et puis, quand même, avant d'aller au rendez-vous, j'en ai quand même un peu parlé à Laure, même si normalement, après un cours de yoga nidra, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il ne faut rien dire. Mais bon, je me suis dit, c'est avant, je vais peut-être quand même lui en parler. Elle m'a dit, ah non, mais c'est normal. Alors après, tu vas entendre ton son intérieur, ensuite tu vas faire des rêves lucides, et puis après, je ne sais quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est ça qui s'est passé. Donc j'ai été rassurée, mais en même temps, j'étais complètement désarçonnée. Parce que j'avais un quotidien, même si j'avais un rapport avec les oiseaux, les arbres, etc., mais plutôt assez rationnel. Prof à Sciences Po, d'histoire de l'art, écrire des textes, donner des conférences. Et j'avais aussi, et je pense que tout, c'était aussi un masque parce que j'avais toujours voulu cacher, en tout cas dans ce milieu-là, la manière dont moi je me sentais un peu folle dingue à l'intérieur. Donc j'avais eu l'impression qu'il avait fallu un peu tuer encore une fois une part de moi, la part exubérante, la part plus spirituelle, pour justement ne pas faire peur et réussir à donner des conférences et qu'on m'écoute. Parce que si j'arrive et que je commence à parler de vie antérieure, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont ne pas me suivre. Donc moi, j'avais vraiment toutes ces peurs-là qui étaient là et qui m'avaient fait vraiment scinder un peu ma vie en deux. J'avais ma vie au travail et puis j'avais ma petite folie personnelle. Mais encore une fois, ce n'était pas très aligné. Donc je me suis formée dans ce Natha Yoga parce que c'était un endroit où tout ce que je vivais, c'était normal, c'était expliqué, c'était même pas grand-chose hein, par rapport à tout ce qui pouvait m'arriver. Et donc voilà, je me sentais normale. Mais j'ai continué dans cette vie de commissaire d'exposition où j'étais très malheureuse, où je me sentais pas alignée. Et c'est pour ça que au bout d'un moment, quand on m'a proposé de participer à une cérémonie avec des unikins d'Amazonie, avec un peuple d'Amazonie, avec des plantes sacrées, je me suis dit oui. J'avais l'impression en plus à ce moment-là que presque chaque mois, je revivais le deuil de mon père et que je tombais dans des tristesses énormes et puis je n'avais pas du tout d'alignement. Et donc j'ai participé à cette cérémonie avec ces êtres extraordinaires, avec des plumes, avec des guitares. Et ce jour-là, j'ai été inconsolable pendant des heures de la mort de mon père. Et c'était magnifique en fait, de se sentir autorisée à être inconsolable parce qu'en fait, j'ai comme récupéré une partie de moi qui était morte avec lui. Et quand j'ai eu fini d'être inconsolable, j'ai commencé à rire. Et puis ensuite, j'ai vécu un amour absolu. Donc c'était génial. Et je me suis sentie adulte pour la première fois de ma vie, en tout cas entière. Donc, c'était super. Et de retour chez moi, je n'avais qu'une envie, qu'une obsession, c'est réussir à me remettre dans cet état modifié de conscience, mais sans avoir besoin ni de communier avec des plantes sacrées d'Amazonie, ni en ayant besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, en fait. Et donc en état de yoga nidra, donc qui est un état où le corps dort et où la conscience reste éveillée, et donc que je pratiquais presque 2 heures par jour depuis ce fameux réveil énergétique, depuis plus de 2 ans, j'ai demandé à mon corps la transe. Et un jour, elle est venue. Et c'est vrai qu'on se pose, on imagine plein de choses sur la transe quand on sait ce que c'est. Mais souvent, on imagine faire des animaux, chanter dans d'autres langues, etc. En tout cas, moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Ou vivre l'amour absolu. Mais alors, la première chose qui est sortie, c'est pas du tout ça. J'ai gémi en faisant des trucs genre pendant 20 minutes avec mon mental en plus qui me disait toi t'es toujours la dépressive de service, il y a ceux qui font les loups, il y a ceux qui font voilà. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que avec la transe qui est un état, je crois, je vais parler un peu de la transe, on va arrêter de parler un peu de moi, je vais parler de la transe comme ça après je repars sur le parcours. La transe, c'est un état modifié de conscience où en fait, c'est comme si vous faisiez quelques pas en arrière à l'intérieur de vous et vous devenez témoin de ce qui se passe. Vous êtes en arrière, même en arrière des pensées, et vous vous placez dans un endroit qui peut presque être même celui de, très proche d'une présence, de quelque chose de l'ordre de la vie, de la conscience. Et c'est comme si on regardait la réalité là devant un écran de télé et que tout d'un coup, on faisait quelques pas en arrière et qu'on voyait que entre l'écran et nous, y a des mouches, il y a de l'air, il y a des gens qui passent, il y a des pensées et on se retrouve en arrière. Et c'est aussi un état où on laisse le corps 100% libre de ce qu'il va faire. Donc que ce soit les gestes ou les sons. Et donc souvent, on est pris de petites vibrations au début, ou de petits des trucs. Parce qu'on est toujours en train de réprimer, en fait, ces micro-mouvements, ces petites choses. Et c'est un état que vous avez toutes déjà vécu, à plein de moments dans votre vie. Par exemple, s'il y a une porte qui claque, donc derrière moi, là, c'est pas possible, mais s'il y a une porte qui claque, il y a beaucoup de chances que votre corps fasse « Ah !» Ben ça, typiquement, c'est une micro-transe. Parce qu'en fait, votre mental n'a absolument pas décidé de faire un saut et de faire un « Ah !» Ou alors, si vous commencez à vous tordre la cheville et vous devez vous rattraper, c'est bien le corps qui va décider de se rattraper et qui va faire peut-être « Oula !» Ou si le téléphone sonne. Donc, en fait, on connaît plein d'états de micro-transe. Et toutes les femmes qui ont accouché ici, surtout si elles ont, si vous avez accouché de manière, pas trop médicalisée, vous avez vécu aussi un état altéré de conscience qui vous place dans quelque chose de l'ordre d'être dans la lignée presque jusqu'à la préhistoire de tous les animaux, tous les humaines qui ont accouché avant vous. Donc en fait, ou alors. Vous avez peut-être vécu des états de transe quand, avec votre compagnon ou votre compagne, il y a eu une crise de nerfs. Et alors là, tout d'un coup, vous n'avez pas compris pourquoi. Vous avez pris les clés de la voiture et vous êtes parti à 2h du matin, traverser la ville et crier à la lune. Ça, c'est un état de transe. Mais là, ce sont des états de transe qui sont provoqués par des choses comme la peur ou par un réveil des traumas. Donc, ce sont des états de transe ou de dissociation qui sont pas forcément, déjà que vous n'avez pas décidé de mettre en place, et qui peuvent être la résultante d'un trauma. Moi, ce que je trouve magnifique, et c'est ça que j'enseigne, c'est rentrer dans un état de transe de manière non traumatique, pour laisser en fait le corps être 100% libre, 100% libre de faire exactement ce qu'il veut. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, parce que... Enfin, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai laissé mon corps libre, qu'est-ce qui est sorti ? Bah, toutes les émotions réprimées. Et aussi, la mémoire qui remonte. Parce qu'en fait, si on oublie beaucoup de choses, on sait que le processus du trauma est souvent un processus d'oubli, pour justement survivre à ce qui s'est passé, et bien, avec la transe, en permettant au corps de se libérer des émotions qui ont été bloquées au moment du trauma, il peut y avoir aussi la mémoire qui remonte. Et donc moi, ce qui m'est arrivé, ça a été très dur au début, c'est que y a toutes les violences de ma mère qui sont remontées. Et donc j'ai passé des jours, des heures à crier, à pleurer, pour tout sortir, en fait. J'ai fait ce qu'on appelle une levée d'amnésie, c'est-à-dire ce qui me paraissait être une enfance normale était en fait une enfance polytraumatique. Et ça peut paraître, ça peut faire peur. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de la transe. Et effectivement, ça peut faire peur de revivre ces traumatismes, mais parce que toute notre vie, on a des stratégies d'évitement. On essaye d'éviter les choses, de les mettre sous le tapis. Mais c'est ce qui fait que dans le quotidien, on va être réactive, que tout d'un coup, il y a notre enfant qu'on aime tellement qui arrive, et puis tout d'un coup, on va avoir un geste ou une réaction de colère, ou ça se retrouve à plein d'endroits, ou alors tout d'un coup, on va s'éteindre, on ne sait pas pourquoi, on est en train de parler, et puis il y a quelque chose qui se passe, et puis tout d'un coup, on s'éteint, on fait un shutdown de notre personne. Hein. Et tout ça, en fait, ce sont la résultante de trauma. Donc en fait, ils sont là, et il nous empêche d'être libre. Au même titre qu'à plein d'égards, notre culture, la manière dont on a été élevé, nous conditionne et nous empêche d'être libre. Avec la transe, c'est vraiment un endroit, un état de grande libération. Parce qu'on se libère de plein de carcans. Parce que je vous jure que quand on commence à parler dans d'autres langues, en sautant au-dessus des personnes avec un tambour, alors que normalement, on est prof à Sciences Po, ça détend sur la question de l'ego, de ce qui doit être fait, etc. Et puis, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde va crier, parler dans d'autres langues, faire les animaux, hurler à la lune. Enfin, c'est assez magnifique. Donc, il y a une libération des carcans. Mais j'y reviens, il y a aussi la libération de ces traumas. Et en fait, dans mon expérience, on ne se libère de ces traumas qu'en les revivant pour que les émotions puissent sortir. Et c'est ça que la transe m'a apporté, elle m'a appris à transmettre la transe, mais surtout à accompagner avec un amour inconditionnel que j'aimerais bien avoir en permanence dans mon quotidien, mais j'y suis pas encore 100% avec un amour et un accueil inconditionnel des personnes qui viennent me voir, pour que ces personnes-là aient le cadre de sécurité pour pouvoir se libérer de leur trauma et recevoir l'aide ou les ressources qu'elles n'ont pas reçues à ce moment-là. Et donc, une fois que la transe était réveillée chez moi, et après avoir passé toutes ces journées à transer seule, à sortir tout l'émotionnel en retard, à me guérir en fait, bah là, je ne pouvais plus rester dans ma vie d'avant. Donc j'ai tout plaqué. Donc j'ai plaqué ma vie à Marseille, en ville. J'ai plaqué mon ex-associé, puis d'autres relations aussi. Et je suis partie. Alors d'abord dans un cabanon sans eau, sans électricité, dans le Var. Je voulais chanter pour la rivière et pour les arbres, et danser pour les arbres, et faire pousser mes légumes en permaculture. Bon, c'était quand même un petit peu haut comme objectif, surtout quand on continue à écrire et qu'on a plein de livres, voilà. Mais c'était extrêmement passionnant, j'ai beaucoup médité là-bas. Et en fait, je pense que la transe m'a permis de m'aligner, c'est-à-dire m'a permis de sortir de ma vie d'avant, mais m'a aussi permis de pas complètement plaquer le milieu de l'art, puisque j'ai réussi à rencontrer des artistes qui avaient le même amour pour le vivant que j'avais, et qui co-créaient avec des insectes, avec des champignons. Enfin, c'est magnifique. Donc c'est le sujet de mon livre, donc je ne vais pas trop en parler, puisque là on a bien dit le parcours, la transe, etc. Mais ça m'a amené, quand j'ai découvert tous ces artistes, je me suis dit, bah voilà, en fait je vais adopter des terres. Bon, finalement, je me suis rendu compte que c'est plutôt elles qui m'avaient adoptée que moi qui les avais adoptées. Mais en tout cas, j'ai voulu arriver sur ces terres sans être maître et possesseur, sans être la prédatrice qu'on peut être. Je ne me suis pas dit, je suis la propriétaire des lieux, donc maintenant c'est moi qui vais décider. Je me suis dit, ok, j'arrive de manière très humble dans un endroit qui me précède de longtemps et qui continuera longtemps après moi. Et je me suis dit que dans cet endroit, je pourrais rassembler tout, c'est-à-dire l'amour pour les vivants, en permettant à une terre de se réensauvager, et en faisant pousser des légumes en permaculture, en enseignant la transe, donc en écrivant ce livre. Et en fait, de tout ça, tout est assez politique, le fait de bifurquer de l'art, de sortir de la ville. Mais j'ai l'impression que ce que je fais de plus politique, c'est d'enseigner la transe. Pourquoi ? Parce que c'est très libératoire. Donc j'assiste à des miracles. Mais aussi parce que quand on fait tous ces pas en arrière à l'intérieur de soi, en fait, on arrive dans un endroit d'empathie total avec ce qui est en train d'être vécu par nous et par tout ce qui nous entoure. Donc, on se retrouve dans un endroit d'amour où, alors, ça peut aller de juste être le simple témoin, mais c'est un témoin neutre. Donc, on regarde ce qui se passe, on se regarde faire des gestes, danser, chanter dans d'autres langues, être un crapaud dans une mare, plein d'autres choses, à vraiment aussi être dans un endroit où on revit, par exemple, avoir été un petit bébé et voir sa mère et avoir un amour fou pour qui on a été. Et souvent aussi à des endroits où on s'est jugé, parce que la transe peut nous emmener dans des mémoires anciennes joyeuses pour nous donner des ressources, mais quand même souvent quand on repart dans notre passé, c'est pour aller guérir un nœud de notre histoire qui est traumatique, ou en tout cas qui a été vraiment désagréable. Et quoi de mieux plutôt que de dire aux gens il faut pas manger d'animaux, il faut pas manger, faut manger que bio, il faut pas acheter de plastique, etc. Ce qui peut être une tendance dans l'écologie et c'est ce que j'ai aussi fait. Je me suis dit non, en fait, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est, ou ce que j'ai envie d'attiser, c'est le feu de l'amour pour le vivant. Et dans l'état de transe, quand on commence à s'aimer soi, quand on commence à aimer même les moments les plus durs de notre histoire, quand on se transforme en un animal, quand on communique, en échange des informations avec un arbre ou avec une plante en pot et qu'on voit qu'elle est triste parce qu'en fait, elle préférerait être dans son biotope originel, on n'a plus envie de couper les arbres. On n'a plus envie de donner de l'argent à de l'agriculture conventionnelle qui retourne les terres et qui met des pesticides partout. Et je vous jure qu'après avoir passé 3 jours à faire les animaux, la poule, le canard, etc., on a moyennement envie, en tout cas le soir, d'en avoir dans son assiette. Voilà. Donc en fait, c'est un outil magnifique à la fois de libération et d'alignement avec notre nature profonde. Parce que je sais qu'il y a eu plein de recherches sur les bébés et en fait, l'empathie, elle est là. C'est aussi notre société, c'est les choses difficiles qu'on vit qui font qu'on est coupé de cet amour pour le vivant. À plein d'égards, si on reste dans cette position de prédateur, je dis prédateur parce que... il y a des prédatrices et il y a des prédateurs. En tout cas, cette position de moderne, de consommateur, de consommatrice, c'est parce qu'à plein de moments, on a dû se couper de son émotionnel, parce qu'autrement, c'est trop dur. En fait, quand on est pleinement connecté à son cœur, à son émotionnel, voir des morceaux de vache ou de bébé de veau sur du polystyrène avec des néons, on ne sent pas bien, en fait. Donc, à plein d'égards... Nous, on est habitués, voilà, on voit la guerre à la télé, etc. On a dû se couper, en fait, de notre amour plein et entier. Et en fait, avec la transe, on arrive, alors petit à petit, c'est pas instantané, mais à rentrer dans un amour qui permet de faire fleurir l'amour pour tous les vivants et pour tout ce qui est. Même si ça demande la pratique, ça arrive. Et voilà, et donc c'est vraiment un lieu pour l'amour du vivant que j'ai voulu créer à Féral, qui est aussi le titre de mon livre. Et je l'ai appelé Féral parce qu'on appelle Féral un animal domestiqué qui revient à la vie sauvage. Donc c'est un peu, en tout cas moi c'était un peu mon itinéraire, mais c'était aussi l'itinéraire des terres que j'avais adoptées. Parce que... elles étaient labourées, elles avaient eu des pesticides, des engrais sur elles. Et je leur disais, là maintenant, je vous laisse repartir vers le sauvage. Et ce qui m'intéresse dans le mot féral, c'est que c'est potentiellement un itinéraire. C'est quelque chose à faire. Vous voyez, quand on dit 6e extinction de masse, réchauffement climatique ou dérèglement climatique, c'est comme des gros menhirs qui nous tombent sur la tête. Moi, en tout cas, j'en ai fait un burn-out. Je pouvais plus je me disais, même quand je respire, je fais du CO2. J'étais arrivée un petit peu loin dans le, dans le truc. Mais je me disais, tout ce que je fais, ça détruit mon existence, détruit le monde. C'était intense. Mais ça, c'est aussi quand on est dans un état de fait. Et en fait, ça arrange tout le monde qu'on soit dans cet état de fait et qu'on se dise, soit je peux rien faire, soit comme on va tous mourir, faisons la fête et profitons jusqu'au bout. alors que là, je me suis dit, la féralité, c'est aller vers le sauvage, c'est un itinéraire. Mais comme on est domestique, on est assez domestiqué, et on sait qu'on reviendra, ce serait une utopie de penser qu'on revient à la vie sauvage, je ne sais même pas si le sauvage pur existe, je ne suis pas du tout dans un essentialisme. Mais je me suis dit, là, on a un itinéraire. Comment faire pour que ma vie soit tendue vers le fait d'aller vers le sauvage, de mettre la vie au centre, de sortir de cet anthropocentrisme, là, du fait qu'on est toujours en train... On s'est mis là en haut de la pyramide, là en haut de la hiérarchie, et on a décidé qu'on allait décider de tout et que tout allait tourner autour de nous, et on est rentré dans un égoïsme pas possible, où on ne se rend même pas compte que nos gestes sont ceux de destructeur ou de destructrice. Et moi, je me suis dit, on peut peut-être faire un shift avec un itinéraire. On se dirait, OK, moi, je veux voir à nouveau la vie qui frétille partout. Je veux arrêter de croire, comme me l'a fait croire mon éducation, que tout est mort autour de moi. Je veux me souvenir que c'est un ancien vivant qui a donné sa vie et qu'en fait, il y a encore quelque chose qui vibre là. J'ai envie de me rappeler que l'air est une co-création entre plein de vivants et que c'est une forme de culture aussi. Et c'est ça la féralisation pour moi. C'est essayer de sortir de notre anthropocentrisme pour mettre le vivant et le sauvage à la fois au centre et comme un but dans notre vie. Et parce que là, on peut se remettre en mouvement. Et donc, la transe, c'est un outil magnifique pour le faire. Et j'ai aussi, dans mon livre, parlé de plein d'artistes dont on peut s'inspirer, parce que chacune de leurs œuvres nous permet de déconstruire des choses qui sont des données dans notre culture. Voilà, donc je vais pas rentrer dedans, mais voilà, il y a plein d'artistes dont on peut s'inspirer pour mettre des petits rituels. Et la conclusion du livre, et ça va peut-être être la conclusion du talk, parce que je pense qu'après c'est plus intéressant que vous me posiez des questions sur la transe et sur ce que vous voulez, et que ce soit plus interactif. Mais c'est que je me suis intéressée à l'animisme et à la spiritualité. Alors bien sûr, si vous êtes spirituel, si vous êtes connecté à la présence, c'est magnifique et ça va vous porter. Mais je m'y suis intéressée d'un point de vue presque rationnel. Je me suis dit, mais en fait, nous, il faut qu'on sorte de notre rationalisme. On a été conditionné au rationalisme, mais c'est un conditionnement parmi d'autres. C'est parce qu'on est né à cet endroit du globe, à ce moment sur Terre. Mais déjà, c'est très récent. Et puis, c'est une croyance comme une autre, en fait, le rationalisme. Et si on veut sortir de notre position de prédateur, de capitaliste dont tous les gestes détruisent, pourquoi est-ce qu'on s'inspirerait pas de tous ces peuples, de toutes ces autres cultures qui en fait ne détruisent pas leur environnement? Pourquoi? Parce que tout est vivant. Parce qu'ils ont ce rapport animiste. Et je me suis presque dit, mais pourquoi ne pas presque se forcer à avoir des pratiques animistes, non pas pour commencer à avoir une foi si on ne l'a pas, mais juste pour nous permettre de sortir de notre position de maître et possesseur. En disant par exemple, merci la grotte, merci de m'accueillir, merci de me permettre de transmettre à ces femmes ce qui m'habite, ce qui m'anime. Merci à ce bison et aux personnes qui l'ont peinte. Merci à tous ces végétaux qui ont permis d'avoir du CO2 et qui font que on arrive à respirer et à respirer ensemble et à co-créer ce soir. Et ça, ce sont des petits rituels qui paraissent animistes, mais en fait, c'est merveilleux. Danser pour un arbre un jour. Et vous verrez, vous serez complètement transformés. Parce qu'en fait, on sort de notre position et on se rend compte que, en fait, on a besoin de donner et de demander avant de prendre. Et en fait, c'est une révolution intérieure magnifique. Et qui peut être aidée par la transe, mais qui peut être aidée avec juste des petits gestes comme ça. Ou nommer une plante, nommer une fleur. C'est incroyable. Parce qu'en fait, le monde n'est plus rempli d'objets, il est rempli de sujets et de choses vivantes. Et on n'a pas envie de détruire le vivant. On n'a pas envie de détruire ce qui respire, ce qui vibre, et ce qui nous permet, nous aussi, de vibrer, de respirer et d'aimer. Voilà. Alors, j'apprends vraiment à entrer en transe. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de donner aux personnes la capacité à devenir leur première trousse à outils émotionnelle et physique. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas trop parlé, je n'ai peut-être pas assez parlé de transe, mais la transe, elle permet des libérations émotionnelles, mais elle permet aussi beaucoup de libérations physiques, au moins au niveau ostéo-articulaire, parce qu'en fait, on laisse le corps faire exactement ce qu'il veut. Et il y a aussi des études pour voir aussi comment des personnes qui sont en suite de traitements anticancéreux se remettent plus vite ou non. Enfin, voilà, y a plein d'études scientifiques à ce sujet. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les gens viennent toujours transer avec moi, c'est vraiment d'essayer de donner les clés pour pouvoir aussi explorer seul. Et je fais ça à Féral, donc dans le lieu dont je parle et dans ces terres dont je parle dans le livre. Et je fais des ateliers de 3 heures et autrement des stages de 3 jours. Je suis complète jusqu'en printemps 2024 pour les stages. mais j'ai une jolie liste d'attente et peut-être que quand la promotion va un peu se calmer... Mais bon, en fait, je prends que 5 personnes à la fois et j'en fais pas plus d'un par mois de stage de 3 jours parce que ce sont vraiment des plongées très psychothérapeutiques et souvent aussi c'est très chamboulant et c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup de cloisonnements mentaux ou de choses qu'on pensait être actées ou de vérités qui commencent à être brouillées en fait lors de ces stages. Et moi, ce que j'aime, c'est aider les personnes à persévérer dans leur être. Donc, il y a aussi beaucoup de temps de parole pour que l'enseignement soit extrêmement personnalisé. Voilà. Donc, il y a des stages de 3 jours où je finis transformée aussi. Parce que, en fait, ça, je crois que je ne vous l'ai pas dit, je me mets dans un état d'amour inconditionnel où, en fait, l'ego Charlotte est vraiment très mis sur le côté. Et je me laisse traverser par les sons ou les émotions que les personnes soit ont besoin d'entendre, soit n'arrivent pas à sortir. Donc je peux pleurer, crier, aller jusqu'à vomir pour les personnes, pour que l'émotion soit libérée. Et généralement, par exemple, le fait de crier la colère d'une personne, la personne réussit à libérer et à crier la colère avec les autres. Enfin, libérer sa colère. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je le fais, mais je ne peux pas non plus je le faire tous les jours. Alors en fait, pour apprendre aux gens à entrer en transe, d'ailleurs je peux vous le dire, vous pourrez peut-être essayer, parce qu'il y a des personnes pour qui ça se développe, ça se débloque comme ça, hein. Il y en a qui transent dans cette salle. Déjà j'apprends au mental. Je passe une heure à parler au mental parce qu'en fait c'est le plus grand blocage et j'essaie de le mettre, de dire on va aller dans le sens du corps, donc je parle vraiment au mental et je lui dis toi tu vas être très curieux, justement Curiosity Club, très curieux de tout ce qui va commencer à frémir, à frétiller en toi, les petits trucs comme ça, les petits tic-tic-tic, la patte qui fait ça, ou alors, et parfois ça c'est plus dur, c'est une autre porte d'entrée. S'il y a une émotion qui commence à arriver, si à tout d'un coup là vous vous sentez oppressé ou si vous avez envie de pleurer ou si tout d'un coup putain c'est la rage, et ben ça, donc je parle aux personnes et je leur apprends à vraiment dire ok, le mental va être curieux de ce qui va commencer à arriver à la surface et faire des petits remous. Et en fait, moi, je vais me mettre dans une transe très forte. Pas une transe comme ça, une transe à destination des personnes. Et je mets mon corps au service de ce moment et au service des personnes qui viennent me voir. Je ne sais pas ce qui va me traverser. Je ne sais pas si je vais être traversée par les mémoires des personnes, par leurs émotions, par des langues autres, etc. Mais la transe, en fait, se transmet un peu par capillarité. Donc là, je ne vais pas le faire, parce que le cadre n'est pas assez intime et que la transe n'est pas un spectacle. Mais si je me mettais dans une transe très forte, il est très possible qu'il y en ait déjà plusieurs d'entre vous qui partent avec moi. C'est un outil, c'est un état qui se transmet. Voilà. Mais c'est un état que vous avez déjà vécu, par exemple, à une fête où vous n'avez même pas bu d'alcool et puis tout d'un coup, vous avez dansé comme des dingues, etc. Bah, c'est une forme d'état de transe et de transe collective. Et bon, là, qui n'amène pas forcément quelque chose de thérapeutique. Enfin, quoique. Quoique. Je retire ce que j'ai dit. Et donc, je me mets dans un état de transe très forte, dans une pièce assez fermée. Et je peux mettre aussi des sons binauraux, je peux faire du tambour ou des sons. Mais on se situe dans un endroit où on est par-delà le beau et le pas beau. Parfois, ce que je chante, c'est magnifique et parfois, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Mais c'est comme ça. C'est ce qui sort, c'est ce qui passe à travers moi. Et c'est aussi génial pour se libérer du regard de l'autre. C'est merveilleux. Moi, je vous jure que quand je me suis mise à sauter avec mon tambour au-dessus de celui qui allait être mon éditeur, je n'avais pas signé le contrat chez Actes Sud. Hein. Là, je me suis dit, Charlotte, là, tu fais un suicide social. J'étais en train de hurler avec mon tambour, parce qu'en plus, comme il est très rationnel, le pauvre, j'espère qu'il n'entendra pas ce truc. Je l'aime tellement. Mais il est très rationnel, donc en fait, la transe, elle m'a prise extrêmement forte. Donc j'étais une furie. J'avais toutes les sorcières du livre de Mona Chollet à l'intérieur de mon corps et je sautais au-dessus de lui avec le tambour, en chantant dans tous les sens, en hurlant pour que la transe arrive jusqu'à lui, en appelant et tout. Et je me suis complètement perdue, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, mais ça m'a quand même détendue sur le rapport à l'autre. Voilà. Et j'ai quand même signé chez Actes Sud. Voilà. Mais le mental était encore là. Alors, il fait partie de ceux qui disent que non. Enfin, il y en a qu'un qui dit qu'il n'a pas transé et c'est lui. Mais en fait, le pauvre, normalement, il y a le secret confidentiel. En fait, il s'est passé quelque chose à la fin qui fait que moi, je sais qu'il a transé. Mais comme on se fait une idée de ce que c'est la transe, eh ben, on ne sait pas toujours. Quand on est entré en transe. Et je pense qu'on en a discuté ensuite. Je ne suis pas la bonne personne, en fait, pour l'accompagner. C'est mon éditeur, on travaille ensemble. Maintenant, on est devenus aussi amis. Je ne peux pas être aussi sa thérapeute ou son accompagnante, en fait. Donc, voilà. Mais il a eu une transe immobile, en fait. Bon, je pense que je peux le dire, il s'est retrouvé complètement figé. Et donc, même après la fin de la transe, pendant 10 minutes, il ne pouvait pas bouger, il ne nous répondait pas. Et donc, si on se fait une image de la transe dans « je bouge tout le temps », ce que j'ai un peu dit, « je chante »,« je fais les animaux »,« je parle dans d'autres langues » ou « j'ai de l'émotionnel qui remonte voilà, », on peut avoir l'impression qu'on n'a pas transé. Moi, j'ai déjà fait une transe statique, mais elle est arrivée assez... Ça faisait déjà plus d'un an que je transais. Donc, je sais ce que c'est. On peut avoir des transes d'immobilité. On se rend compte que tous les gens autour de nous, ils ont toutes les couleurs du monde. Ils vivent toutes les émotions. Donc, en fait, on n'a besoin de rien faire puisque tout est en train d'arriver dans ce monde. Voilà. Mais quand c'est la première, c'est perturbant. Mais au même titre que moi, quand j'ai commencé à faire « je ne me disais pas que j'avais une vraie transe. Je me disais « bah non, moi, je ne fais pas les animaux. » Et ce qui peut vous dire, et ce qui peut vous rassurer au début, ou vous décevoir, c'est qu'au début, le mental ne part pas.
Ouais, c'est ça, l'état de conscience est toujours présent, en fait.
Oui, sauf en fait, on s'observe, et on observe aussi tous nos jugements. Ce n'est pas forcément très agréable.
Est-ce que l'issue, c'est toujours le bien-être, en fait ? Pas
forcément. Alors, dans mon expérience, oui. Ouais. Dans mon expérience, oui, parce qu'en fait, quand on prend conscience des choses, qu'on revit les traumatismes, qu'on libère toutes les émotions qui étaient bloquées, qu'on se libère du jugement des autres. Alors, ce n'est pas définitif et je pense qu'on a à travailler toute sa vie et je vais transer toute ma vie pour me libérer encore plus de mes carcans. Je pense qu'on n'est jamais arrivé. Mais oui, moi, en tout cas, je suis passée de dépressive non alignée en ville à... j'ai toujours des hauts et des bas dans ma vie, mais j'ai jamais vécu un alignement pareil. Je me réveille, j'ai les pieds dans la terre, il y a des poules, il y a des chiens, je transmets l'amour du vivant. Quand j'étais petite, j'avais dit au directeur de ma mère, qui avait été horrifié parce qu'elle est prof de lettres, j'hésite, comme elle dit, qu'est-ce que je voulais faire plus tard. J'avais dit, j'hésite entre vétérinaire et Spice Girl. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que je fais ? Je suis sur scène à transmettre l'amour du vivant. Donc, j'espère que je suis un petit peu moins connue que les Spice Girls, mais j'ai un peu plus de goût. Enfin, j'espère. Vestimentaire. Donc, peut-être que j'ai gagné au change. Mais finalement, je ne suis pas si loin. Et je m'en suis, merci, parce que je m'en suis souvenue quand vous m'avez dit « Si, si, il faut parler de l'enfant que vous étiez. » Voilà. Et ouais, beaucoup de bien-être. Il y a vraiment la peur de pas réussir à sortir de cet état, mais qui est aussi beaucoup augmentée par la manière dont on parle, même dans les médias, de la transe. Mais moi, dans mon expérience, les gens ont plus de mal à rentrer dans l'état et à y rester, et c'est bien ce que j'apprends à faire, plutôt que de revenir. Et je pense qu'il y a effectivement des personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui ont du mal à ressortir de cet état, mais en fait, ce sont des personnes qui vivent l'enfer et qui vivent des états de dissociation en permanence. Je vous promets que ces personnes, déjà, ne m'appellent pas et ne veulent pas. Eux, ils prennent des médicaments pour ne pas rentrer dans cet état qui, eux, les font souffrir. Donc, bien sûr, le mental, il peut avoir peur, il se dit plein de choses. Mais en fait, on le regarde, le mental, au même titre que le reste. Et on ne le suit pas. Et donc, c'est un peu ce graal de la méditation où on dit, vous regardez vos pensées passer comme une vache regarde un train qui passe. Bah là, de fait, t'es comme ça, ding, 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 tu te dis, ah, j'ai l'air débile. Elle passe, en fait, la pensée. Et si ça se trouve, et là, c'est une porte d'entrée ou une porte d'approfondissement que j'enseigne aussi, c'est quand on se dit ça, se dire qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur quand je me dis je suis débile. Et en fait, on permet d'amener le jugement à l'intérieur du cœur. Et là, si ça se trouve, on va revivre un moment où on s'est senti vraiment bête, vraiment en dessous de tout, et on s'est jugé, et on a eu envie de mourir. Et là, en fait, comme on est dans cet endroit d'amour, on devient le parent, la mère avec l'amour inconditionnel, peut-être qu'on n'a pas eu, ou en tout cas qu'on n'a pas eu à ce moment-là, et on devient sa propre mère, en fait. Et on va voir l'enfant à l'intérieur de nous, qui s'est dit un jour, je suis débile, et on va la voir avec amour. On va lui dire, t'es magnifique. Et en fait, on ne va pas lui dire avec des mots, avec du mental. On va le vivre, on va vivre dans nos cellules un amour incroyable pour cet enfant qui a tellement souffert et qui n'a pas reçu ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Parce que c'est ça qui est beau avec la transe, c'est qu'on a, quand on revit des choses difficiles, on a les ressources qui viennent avec, qui vont réparer. Et c'est là où il y a des grandes libérations. Souvent, je reviens à la tournée du livre, des trucs, machin, j'ai tellement de boulot. Et je me dis, j'espère que je vais réussir à donner le stage de transe, à donner mon corps là, comme ça pendant 3 jours à ces personnes et tout. Je suis tellement fatiguée, peut-être que je me surmène, je suis toujours en train de me surmener, tu vois, j'ai tous les jugements, je suis dans ma... Et dès le premier jour, j'assiste très souvent, enfin je ne veux pas non plus vous donner trop d'espoir, mais j'assiste à des miracles. Je vois des femmes fleurir, je vois... Des victimes d'agressions sexuelles se réparer avec le masculin, avoir le désir et la sexualité qui reviennent dans leur corps. Je pleure de joie et de gratitude très régulièrement dans mes stages pour dire merci de ce qui se passe, quoi, et de la manière dont les femmes et aussi les hommes se guérissent eux-mêmes avec cette pratique. Je suis très très humble par rapport à cette pratique parce que déjà je me mets au service et que Charlotte elle est pas trop là et donc le mental, même quand mon mental de Charlotte il passe mais je le suis pas, c'est pas lui qui décide de ce que je vais faire. D'ailleurs parfois la transe me fait faire des choses que mon mental il est pas d'accord, parce que souvent les traumas remontent tout seuls, mais une ou deux fois c'est mon corps qui a fait revivre le trauma à une personne. Je peux vous dire que mon mental et Charlotte, elle n'était pas du tout d'accord à faire des gestes, des choses, ou à dire des mots qui allaient activer la personne. À la fin, je me suis dit, mais mince et tout. Et en fait, non. La personne était en gratitude, elle a réussi à tout réparer. Après avoir, c'était pas moi, hein, mais déclenché, juste fait la petite chose qui allait déclencher le trauma. Ensuite, j'étais cette personne accueillante. Ou alors, la personne à côté s'est mise à chanter, parce que c'est en groupe, parce qu'il y a cette intelligence collective qui se crée aussi. Ou quand il y a une personne qui pleure, ça aide tout le monde. Quand il y a une personne qui crie, ça aide tout le monde. Quand il y a une personne qui chante, ça aide tout le monde. Donc les personnes arrivent, se présente, parce qu'il y a souvent aussi plein de peurs. Donc je laisse vraiment les personnes aussi dire quelles sont les peurs, avec quelles sont les intentions, etc. Et ensuite, là, j'explique vraiment, enfin, je réponds à toutes les questions et j'explique ce que c'est la transe et comment on va y aller. Ensuite, la première transe se passe. Et à l'issue de la première transe, souvent, les personnes vont partager sur l'état de transe et où vont être les blocages. Et à ce moment-là, en fait, je vais répondre très précisément sur des solutions potentielles pour soit surmonter les blocages, soit les vivre pour... Donc la personne qui est tellement dans le mental qu'elle n'a pas réussi à aller, ben, par exemple, ça va dépendre de la personne, hein, j'invente, mais il y a quand même certaines personnes qui sont tellement dans le mental qu'elles n'arrivent pas à aller dans le corps. Je me dis, mais tu te disais quoi ? Et en fait, souvent, la personne dit, ben voilà, moi je suis nulle, j'y arrive pas, il n'y a que moi qui n'y arrive pas, je suis les 1%, c'est toujours moi. Je dis, ok, qu'est-ce que ça fait, là, la prochaine transe ? Tu vas mettre ces pensées-là, tu vas les mettre dans ton cœur. Parce que ta porte d'entrée, ça va être l'émotionnel. Et là, ben, y a une porte d'entrée émotionnelle. Souvent, ce sont les personnes qui ne vont pas forcément avoir une porte d'entrée physique. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont commencer à faire des choses, qui vont faire « Ah, mais oui, c'était dingue, moi, j'avais les bras qui bougeaient, etc. » Mais quand même, mon mental, il était encore là. Et puis, j'ai bougé, et puis, mais bon, c'est tout. Et puis là, tout d'un coup, je me sentais un peu oppressée, donc là, bah, j'ai arrêté. Donc là, moi, je vais l'aider à... Je dis, ben, maintenant, la transe, elle a proposé d'aller plus loin. Et c'est ce qui arrive souvent, et c'est bah, vivre cette oppression, aller voir ce qu'il y a dedans, accueillir, et être curieux, et laisser cette oppression vivre au même titre. Et donc là, je vais vraiment aider la personne à aller plus dans l'émotionnel.
Il y a plein de séquences, en fait.
Ouais. Et puis au fur et à mesure que le stage arrive... En fait, les personnes ressortent avec leurs problématiques personnelles ou avec des interrogations spirituelles ou métaphysiques. Et donc, on va en discuter et ça va se préciser pour chaque personne pour réussir à... Parce que parfois, même en transe, il y a des stratégies d'évitement qui font que les personnes vont plus aller un peu dans les alléluia, faire des voyages magnifiques, commencer à avoir des visions de voler dans le ciel, etc. Et c'est magnifique. Mais pour certaines personnes, ce sont encore des stratégies d'évitement pour ne pas voir la noirceur, etc. Et c'est là où ce que je me suis aussi formée auprès de thérapeutes, de psychothérapeutes, mais sans être psychothérapeute, j'ai pas du tout ce bagage ou ce titre-là. Là, j'ai beaucoup appris sur les mécanismes du trauma, sur les émotions, etc., pour aider les personnes justement à réussir à plonger dedans. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que la manière dont j'enseigne la transe, c'est vraiment un mélange, parce que ça vient un petit peu de ce qu'on appellerait vulgairement le chamanisme. Mais dans le chamanisme, il y a beaucoup de travail sur le pouvoir, en fait. Les pagés, les chamans, les kulanderos, en fait, ils sont en train de gérer avec des esprits, avec des forces pour la chasse, etc. Ce sont des pratiques de guérison, mais ce sont des pratiques de pouvoir aussi, pour réussir à survivre dans des milieux particulièrement denses, on va dire. Et grâce à cette formation en yoga et à ce que j'ai fait au niveau psychothérapeutique, il y a eu ce travail sur l'ego et sur l'unité. Et je pense que c'est ça que j'essaye de transmettre, c'est-à-dire plutôt se mettre au service de manière non égotique et de manière assez humble, qui serait plutôt une voie plus orientale, tout en se mettant à vibrer, etc., avec des pratiques qui sont plus, parce que pareil, là, c'est aussi des grandes généralités, mais plus liées à des pratiques de pouvoir chamanique. Et donc moi, c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre, c'est un mélange de, quand même, d'empuissancement, parce que ce sont des pratiques d'empuissancement, mais en même temps où l'ego est un peu mis de côté et où il y a un vrai travail aussi occidental sur les traumas, sur les jeux de pouvoir, sur comment on rejoue en permanence des situations traumatiques de notre vie, etc. Donc c'est vraiment informé par ces trois pôles, quoi. Normalement, une fois que tu as débloqué ça en toi,
Tu peux le faire tout seul. Après, il y a des personnes qui referment la boîte, qui se sont fait 3 jours de guérison et qui ressortent hyper chamboulées et trop bien. Mais donc, ensuite, bah, il faut réaligner tout dans la vie, hein, parce qu'ensuite, voilà, tout est un peu... Ouh. Il y a certaines personnes qui veulent absolument revenir. Donc, ce qui est aussi un peu problématique, parce que j'ai pas beaucoup de place. En fait, si parfois vous avez votre corps qui commence à faire ça, c'est le corps qui appelle à la transe, qui veut s'auto-guérir, qui a besoin de sortir de l'émotionnel, etc. Donc en fait, c'est un état d'être. Donc on ne peut pas être accro, je pense, à un état d'être ou addict. Non, mais aussi parce que les addictions, c'est quelque chose de très triste que le corps fait, mais de manière extrêmement amoureuse ou bienveillante pour nous. L'addiction permet de réduire l'angoisse liée à des traumas et à des choses refoulées. Et en fait, on est tous addicts à beaucoup de choses, à notre mode de vie, entre autres. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'avec la transe, on se libère de certains traumas. Enfin, ça peut prendre du temps. Mais on se libère de certains traumas qui sont à la source de nos comportements addictifs. Moi, en tout cas, avec la transe, enfin, moi, je pense qu'avant, j'étais addict à rien que la viande. Et tout d'un coup, bah, j'étais alignée, et bah, j'avais plus envie de manger d'animaux. Ou là, ça fait 3 semaines et demie que j'ai pas pris de café, c'est incroyable. Mais voilà, quand on fait des grandes pratiques de transe pendant des jours, etc., ça permet un vrai alignement, et on n'a plus besoin d'assommer les angoisses qui nous rongent avec de l'alcool, des séries, des bonbons, ou que sais-je. Donc c'est un état, en fait c'est un état naturel, la transe. Je pense que la manière dont on a été éduqué, et je crache pas sur 100% de notre éducation, parce qu'autrement, on ne pourrait pas être là en train de parler. Je ne saurais pas faire des phrases avec sujet-verbe-complément. Donc l'idée, ce n'est pas de tout mettre à la poubelle. Mais à plein d'égards, ce conditionnement nous a coupés d'une manière complètement logique d'être, c'est-à-dire l'état de transe. Moi, je sais plus ce que c'est la normalité. Voilà. Est-ce que la normalité, c'est d'être avec vous en faisant attention un petit peu à mes gestes et à mes paroles ? Où ce serait magnifique qu'on soit tout en train de chanter, de se libérer, de dire merci à cette grotte. Je ne sais pas. Ah non, pour moi, c'est l'inverse d'un refuge. C'est entrer dans un état de présence et d'amour qui est à la source de tout. Alors, j'ai une moitié de famille qui est merveilleuse et j'ai une autre qui est très normée. Donc j'ai une partie de ma famille qui trouve ça merveilleux, et j'ai une autre partie de ma famille où j'ai toujours été un peu le petit canard boiteux, moi. J'étais toujours celle qui était un peu spéciale, qui était d'accord avec rien. Je pense que je suis éco-terroriste, usage illégal de la médecine, enfin c'est la totale, quoi. Et bah, c'est une partie de ma famille avec laquelle je parle assez peu. Voilà. J'ai décidé de me protéger de ces personnes. Et je transe beaucoup, je médite beaucoup chaque jour, en espérant atteindre un état d'éveil total, plein et pas clignotant, où bah, je pourrais être en leur présence sans que ça réveille mes vieilles douleurs de rejet, etc., etc. Voilà. Donc j'ai certaines personnes de ma famille qui trouvent ça merveilleux, qui lisent mes livres, qui viennent faire de la transe avec moi. Et les autres, ils vivent leur chemin. C'est leur chemin de conscience à eux. Voilà. Moi, je pense que de tout temps, tous les créateurs et toutes les personnes qui avaient envie d'avoir un lien avec l'invisible, on sont entrés dans des états ou entrent en état modifié de conscience par des moyens multiples. Et donc, ça peut être l'alcool, ça peut être les plantes, ça peut être ne plus dormir, ça peut être tourner sur soi-même pendant des heures. Il y a des manières d'entrer en état modifié. En fait, je pense qu'on est toujours en train de vouloir sortir de nous-mêmes et qu'on cherche par tous les moyens à sortir de nous-mêmes. Ou à se faire des trails pendant 4 jours, partir par moins 40. Enfin voilà, on est toujours en train de se mettre dans des situations pas possibles pour vivre des expériences qui dépassent. Parce qu'en fait, c'est horrible d'être dans un corps aussi limité alors qu'on a un esprit illimité. C'est horrible, ça, c'est vraiment une des croix de l'existence de l'humain. Et je pense que les artistes sont toujours plus ou moins dans un état modifié de conscience quand ils créent. Et qu'ils n'ont pas du tout forcément besoin de substances pour y arriver. En revanche, et c'est souvent le cas, c'est souvent des personnes qui ont été très blessées et qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et parce que c'est souvent par la brèche qu'arrive la lumière, en fait, et la grande sensibilité. Moi, je ne sais pas si ça s'est senti dans mon récit, mais toute cette noirceur de mon enfance, de mon adolescence, avec une mère très violente, avec un père malade puis mort, bah, finalement, ça a servi la lumière. Puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de vivre l'amour inconditionnel que ma mère, par sa maladie, ne peut pas vivre, en fait. Elle ne sait pas ce que c'est l'amour. Mais moi, c'est parce que j'ai vécu avec une mère qui n'avait pas d'amour, en tout cas qui n'a pas la capacité d'avoir de l'empathie à mon endroit, que moi, j'ai voulu développer ça. Et je pense que et ça m'a mis dans un état d'hypersensibilité qui fait que je peux être là et à transmettre l'amour du vivant. Et je pense que quasiment tous les artistes avant moi ont vécu ces traumatismes qui ont aussi ouvert la brèche, qui leur ont permis d'ouvrir, de voir qu'il y avait plus que cette réalité matérielle qu'on nous donne comme finie. Voilà. Ensuite, je différencie vraiment les drogues ou les médicaments ou les choses créées par l'humain. Des plantes sacrées et des plantes médicinales qu'on trouve à l'étranger ou chez les peuples. Parce que nous, on arrive avec nos jugements, etc. Mais par exemple, là, j'étais avec un pagé de la tribu des Noke Queen la semaine dernière. C'était merveilleux. Mais en fait, ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas accès. Ils ne savent même pas ce que c'est, enfin, plus ou moins. Mais donc, en fait, si nous, on commence à appeler drogue leurs plantes, alors que c'est leur seule médecine. Mais de quel droit, en fait? Donc déjà, je suis très... Je déteste les gens qui disent « Ah oui, j'ai pris ce psychotrope » ou... Non. Pour eux, par exemple, prendre ces plantes, c'est une cérémonie, c'est recevoir l'enseignement d'une plante. Et ça, c'est pas anthropocentré. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le chaman qui te fait guérir, c'est la plante qui t'enseigne. Incroyable pour sortir de notre condition justement de prédateur, de prédatrice, de consommateur, de consommatrice. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça. En revanche, ça c'est pas du tout pour tout le monde. Voilà. Si on se sent appelé, ok, mais c'est vraiment pas du tout pour tout le monde. C'est bien de savoir dans quel contexte on le fait. Mais c'est vrai que c'est plusieurs années de thérapie potentiellement en une nuit. Mais un stage de transe de... oui. Voilà. Mais un stage de 3 jours de transe aussi. Voilà. Oui. Mais après, il faut que vous soyez prête à quitter votre mari, prendre un van, se casser, vivre nu sur une plage. Enfin, voilà. Enfin... Moi, ça a été un peu radical, quand même, le changement. Je pense qu'on se connecte à notre soi profond. Et donc, quand on se connecte à notre soi profond, bah, c'est plus facile aussi de se connecter à l'autre ou aux autres. Bah, et en plus, la transe nous amène toujours, pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Voilà. Donc moi, par exemple, je voulais rentrer en transe pour parler avec les animaux et danser pour les arbres. Et finalement, parce qu'en fait, si on se met à transer souvent, on a des capacités en dormance qui se réveillent. Donc ça peut être une grande créativité, ça peut être de parler avec les morts, enfin, y a plein de choses qui peuvent se réveiller. Et moi, ça m'a apporté quoi? Alors que je partais dans une retraite où je ne voulais plus entendre parler d'humains, ben, ça m'a apporté de transmettre aux humains, cette capacité à les aimer de manière inconditionnelle, à les prendre dans mes bras, à être vraiment hyper touchée quand il y a des pleurs et de la morve qui me tombent dessus. Alors qu'à l'origine, moi, j'avais dit, non, mais les humains, mais c'est fini, là, c'est fini, je ne veux plus vous voir. Ouais, je pars dans mon cabanon. Donc la transe nous apporte ce dont on a vraiment besoin au fond. Et nous apporte toujours quelque chose de l'ordre de la reliance. On peut parler des enseignements qu'on a reçus. Par exemple, je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'on était toujours un cocon et qu'ensuite on arrive à une étape supérieure dont on n'a pas idée. Ou je me suis rendu compte que c'était en traversant un traumatisme qu'on pouvait s'en libérer. Et je conseille de dire ça, mais pas... Ouais, alors tout d'un coup, je sais pas, quand j'ai commencé à parler avec cet arbre et qu'il m'a expliqué, ou alors j'ai eu la vision d'eux. Je me dis, mais là, en fait, les personnes, elles vont pas vous suivre et ça va à la fois minorer l'expérience, ce qui vous a fait vibrer, etc. Ça va lui faire perdre de la brillance et des couleurs à l'intérieur de vous. Et en plus, potentiellement, vous allez expérimenter le rejet. Donc, en fait, juste après les stages, je fais souvent un groupe WhatsApp où on continue souvent pendant 3-4 semaines, c'est très intense pendant 3 semaines, surtout, et on échange souvent, voilà, des couchers de soleil, des fleurs, des interrogations, des peurs, et où je continue à répondre beaucoup, voilà, je fais des vocaux, j'explique, et puis il y a des personnes qui me rappellent. Et puis souvent, au bout de 3-4 semaines, ça se tarit un peu tout seul. Et j'ai juste des nouvelles un peu sporadiques ou des personnes qui disent voilà, bonne année ou qui nous partagent quelque chose sur un des groupes, qui nous annoncent voilà, qu'ils ont réussi à se libérer d'un travail avec un boss toxique ou enfin voilà, des bonnes nouvelles comme ça. Je me pose la question de former des gens, mais je pense que ça serait facile de former des gens à la transe et à l'accompagnement en transe, mais en fait, j'ai très peur de... Je ne sais pas, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont eu la capacité à mettre leur ego 100% de côté, à ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir et qui ont fait ce travail sur soi de ne pas se sentir attaqué ou agressé ou s'il se passe quoi que ce soit dans la salle, en fait. Et donc, moi, je cherche plutôt des personnes qui ont la capacité, qui ont vraiment travaillé sur l'ego et qui peuvent se mettre dans un état d'amour et d'accueil inconditionnel. Donc je cherche presque plutôt des personnes qui ont un parcours méditatif ou de yoga ou qui ont beaucoup fait de thérapie mais où l'ego n'est pas trop pris le dessus. Et donc je me pose la question parce que ça, c'est une grande responsabilité de tout d'un coup dire à quelqu'un bah voilà, je t'ai appris à rentrer en transe, je t'ai appris comment à peu près accueillir la personne ou soutenir une personne ou transmettre la transe. Mais ensuite, moi, je fais quoi si ces personnes-là, elles commencent à profiter de la vulnérabilité des personnes ? Parce qu'en état de transe, on est très vulnérable. Et moi, tous les mois, dans ma salle de pratique, j'ai des personnes qui ont été abusées à divers degrés par des personnes qui se disaient des grands chamans, des grands spirituels, et puis tout d'un coup, ils veulent coucher avec toi parce que tu es très spéciale et tu es la personne choisie. Ou alors, quand c'est des femmes, des femmes de pouvoir qui vont toujours rabaisser, amoindrir la personne pour que justement, elle ne fleurisse pas. Parce qu'en fait, la transe, c'est un état de libération et de... d'enfleurissement, quoi. Et en fait, on ne peut pas se rendre compte tout de suite de si quelqu'un est vraiment très dominateur ou est vraiment dans les jeux de pouvoir, etc. Sauf que moi, dans la salle de pratique, je suis le cœur ouvert, amour inconditionnel, donc en fait, tout le monde est beau. Et donc, parfois, voilà, pour tout le monde, mais pour moi aussi, il faut... du temps pour vous dire ah ouais non là il y a quand même un gros ego qui arrive pas à ne pas être touché donc c'est compliqué donc pour l'instant je garde le petit comité une fois par mois. Est-ce que je refuse ça m'est déjà arrivé par exemple pour des personnes qui me disaient moi je rentre en transe mais après je mets 4 jours à revenir, je prends des médicaments et tout, et donc ces personnes là souvent je les ai interrogées en disant, mais si tu prends des médicaments pour ne pas rentrer en état dissociatif, qu'est-ce qui fait que tu as envie de venir me voir pour revivre des états dissociatifs qui ont l'air traumatiques, ou traumatisants en tout cas? Et j'ai l'impression que là, il y a quand même deux chemins qui sont assez opposés. Donc voilà, et avec cette discussion-là, la personne se dit, bah oui, je vais peut-être réfléchir, parce qu'effectivement, prendre des médicaments pour ne pas rentrer en état dissociatif et aller voir une thérapeute. Et c'était une femme médecin en plus, donc j'ai vraiment réussi à discuter. Ah bah je pense que c'est tout, ça peut toujours être bon. Et cette personne, peut-être qu'elle viendra me voir. Mais à ce moment-là, j'avais encore pas mal de peur et je faisais aussi attention, et aussi pour peut-être pour les autres. Et ensuite, pour le côté safe, bah la confiance est dans le groupe, elle se crée petit à petit. Et moi, il y a quelques règles. Par exemple, ne pas toucher les autres, même si on a une idée ou une solution, et même si on est thérapeute, on ne donne pas sa solution à l'autre. Et je crée un espace où vraiment, dès le début, avec une méditation, j'instaure que c'est un espace qui a été pensé pour le non-jugement, pour l'accueil inconditionnel et sans commentaire. Donc, un peu comme dans un cercle de femmes, on s'écoute, mais on ne commente pas. Et donc ça, c'est très safe. Et puis ensuite, voilà, on se laisse tous et toutes traverser par l'émotionnel des autres. Donc, la confiance, elle se crée aussi parce qu'on parle de cœur à cœur, en fait, ou même de ventre à ventre. Et on n'est plus dans cet endroit-là qui juge et qui dénigre. Et on se retrouve à trouver des personnes sublimes, alors que peut-être que notre jugement aurait dit quelque chose d'autre à première vue. Et ça, on le vit toutes et tous dans les stages, et c'est assez magnifique. Et si les personnes sont vulnérables, c'est peut-être l'endroit, justement. On peut être très vulnérable et justement aller dans la transe pour vivre cette vulnérabilité et la transformer en une force et guérir en profondeur. Ça m'est jamais arrivé. Et c'est un état où en fait on laisse au corps notre corps, il sait beaucoup mieux que nous nos limites. Parce qu'en fait nous on se met des limites mentales, mais qui ne sont pas les limites du corps. Le corps, il sait très bien quand il a envie d'arrêter de manger, quand il a envie de dormir et tout, c'est juste qu'on ne l'écoute pas avec notre mental. Et donc, en fait, en transe, le corps a sa pleine puissance. C'est là où il doit s'arrêter. Il ne va pas plus loin que... En fait, en transe, on ne va jamais plus loin que ce qu'on est capable de vivre. On ne se fait jamais mal. À part des micro-trucs, style on peut avoir des ampoules, par exemple, si on tape trop sur le tambour, on peut avoir quelques ampoules, mais enfin, on parle de micro-inconfort. Mais moi, j'ai déjà vu, une fois, j'ai vraiment eu peur. C'était un jeune homme qui était assez instable psychologiquement. C'est la fois où je me suis dit, bon, peut-être que là, j'aurais pas dû... Enfin, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être... Et en fait, ça l'a beaucoup aidé et j'étais très heureuse. Mais il était comme ça, il bougeait à fond, comme une sorte de sardine. Et à côté d'un coin de ma pièce, quoi. J'ai jamais eu aussi peur. Je lui mettais des coussins, j'essayais de le bouger, il revenait. La transe d'après, je le fais traverser la pièce. Je dis, là, ça a l'air plus safe et tout. Il se remet et là, il était à côté du piton, là, du radiateur. J'étais comme ça, mais on va le perdre. Là, j'ai eu peur. Et en fait, son corps, alors qu'il avait les yeux fermés, alors qu'il était comme ça, il n'a jamais touché les parois. Il ne s'est jamais fait mal. Parce qu'en fait, notre corps, même les yeux fermés, connaît les limites. Mon corps sait à combien de centimètres est le mur derrière moi. Il y a une conscience du corps. Et en fait, c'est aussi ça, la transe, c'est qu'on devient hyper conscient de choses, d'informations que notre mental, d'habitude, coupe pour pouvoir être en interaction, pour pas être bombardé. Mais en fait, tout d'un coup, on ouvre les vannes et on accepte d'être dans le micro-ondes qu'est notre corps, et on est dans un micro-ondes, on est bombardé en permanence de milliards d'informations. Et là, tout d'un coup, on va les sentir, on va aller une partie, on va se focaliser sur une sensation ou une autre. Et ça, je ne l'ai pas dit, il y a aussi des distorsions. Il y a des distorsions temporelles, il y a des distorsions auditives. On est vraiment dans un état modifié un peu comme si on avait pris une plante de pouvoir ou une drogue synthétique contemporaine, mais où on peut revenir. Mais en plus, c'est vraiment un état que vous avez déjà connu, vous n'avez juste pas, vous n'avez pas appris à le potentialiser, à en faire un état de créativité, un état de libération, un état de joie. J'ai vraiment tous les profils. Et d'ailleurs, j'ai quasiment autant d'hommes que de femmes, ce qui est assez rare dans le milieu, dans les médecines douces ou les médecines alternatives. Je ne sais pas si on peut dire médecine douce pour la trans, c'est pas toujours doux non plus. Et j'ai vraiment des gens de tout âge. J'ai eu à peu près de 19 à 75 ans, donc tous les genres confondus, même des personnes en transition de genre. Et il y a des personnes qui sont très spirituelles et qui sont déjà médium ou magnétiseur, qui veulent aller plus loin. Il y a des personnes qui sont sur un travail de non-dualité, qui veulent atteindre l'éveil, qui viennent. Il y a des personnes qui disent qui sont malades et qui veulent venir pour essayer de guérir des cancers ou en tout cas vivre l'après-chimio différemment, en se reconnectant avec leur corps, etc. Et j'ai des personnes qui sont très curieuses, qui ont lu des articles dans Le Monde ou qui ont écouté des conférences et qui disent « Oh, ben voilà, en fait, c'est un état du cerveau et je veux essayer. Et apparemment, on peut y arriver à 95%. Ça a l'air dingue. » ou des personnes qui se disent ouais, il faut que je suis intéressée par les peuples premiers ou par le chamanisme. Voilà, j'ai vraiment tous les profils, donc ça donne toujours des panels assez intéressants. C'est un état de témoin, d'observateur ou d'observatrice qui est similaire, mais dans Vipassana et dans la plupart des méditations du yoga, il y a un contrôle du corps. On fait en sorte que le corps, justement, soit dans des positions particulières pour bloquer les énergies, pour que l'énergie se concentre à la base de la colonne, remonte, etc. Alors que, donc, et on peut vivre des expériences, même de transe en yoga ou en méditation. Mais la grande différence avec la transe, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle du corps. Et en fait, quasiment dans toutes les pratiques du monde entier, il y a toujours un contrôle quelque part. Il y a toujours un truc qu'il faut faire, un truc qu'il ne faut pas faire. Alors que là, on se lâche la grappe, en fait. On fait enfin... Enfin, on laisse le corps faire exactement ce qu'il veut. Souvent, ça peut commencer comme ça, parce que justement, il y a le blocage qui s'exprime, mais c'est le début. Et ensuite, ça s'ouvre sur quelque chose. Et donc, en fait, on se met dans un état de réceptivité, ou peu importe ce qui doit être vécu, est vécu. Et moi, en tout cas, dans mon expérience, on a besoin aussi de vivre nos blocages. Par exemple, l'impossibilité à vocaliser, elle arrive souvent, et aussi très souvent chez les femmes, c'est bizarre. Et donc, parfois, il y a une transe qui va faire... Je vais dire, si, vocalise. Et en fait, le fait d'avoir passé cette transe, ou ces transes, à ne pas réussir à vocaliser, mais en restant avec le blocage. Au même titre que moi, pour un truc très physique, moi, je me suis déjà retrouvée plusieurs transes d'affilée avec le bassin qui bougeait comme ça, le bassin qui bougeait et tout. C'est limite pas agréable. Bon, moi, je me disais avec le yoga, bah, voilà, c'est la Shakti qui veut se réveiller pour aller retrouver la conscience, etc. Et ça faisait comme ça. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, plac, ça s'est débloqué. Et là, je suis devenue le serpent. Mais je ne savais pas que c'était ça qui allait venir. Et donc, moi, souvent, j'expérimente et je fais expérimenter aux gens le fait de laisser être les blocages pour qu'ils se libèrent d'eux-mêmes. Et c'est pareil pour les traumas. Mais on ne va pas décider d'avoir un blocage ou qu'un blocage ou qu'un trauma arrive. On n'arrive pas à une séance de transe en disant « Bon, alors, moi, à 7 ans et demi, mon père a eu un accident de moto, j'étais derrière, et depuis, je suis paniquée à l'idée de vivre. » C'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais parce que ça pourrait être génial, parce qu'on en a tous des bagages derrière et des histoires pas drôles. Et non, on laisse au corps le fait de faire ce qu'il veut. Mais si tu vivais un petit blocage, il se libérerait dans autre chose. Mais parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, C'est que au début, j'apprends à rentrer en transe, mais ensuite, j'apprends tous les potentiels de la transe, et notamment poser des questions à la transe, poser des questions à son corps, placer des intentions, etc., pour un peu diriger, réussir aussi à voyager à l'intérieur de la transe. Et souvent, quand il y a un blocage qui se montre, que ce soit physique ou émotionnel, ou je vais partir sur un exemple physique, c'est que presque notre mental d'occidental voudrait dire bah, l'intention, ça serait comment me débarrasser de cette transe. Et alors, résultat, il peut y avoir justement cette... Là, on va danser autour, on va mettre des choses qui vont débloquer tous les muscles, qui vont peut-être débloquer, par exemple, cette épaule bloquée. Mais moi, ce n'est pas ça que j'apprends. Je leur dis, ben, dans mon expérience, ce qui va le mieux fonctionner, c'est qu'as-tu à me dire ? Et là, on va rentrer, on va arriver avec amour, avec le cœur tout ouvert vers sa blessure, vers sa douleur, et on va apprendre. Et donc, on va faire aucun geste d'évitement ou pour que ça se débloque, parce qu'en fait, vouloir débloquer quelque chose, c'est vouloir le tuer en soi, c'est vouloir s'en débarrasser, alors que c'est un message du corps. C'est quelque chose qui... Votre corps essaie de vous dire quelque chose de magnifique, mais en fait, nous, ça nous fait chier. On a envie de prendre des doliprane et des trucs et de plus avoir mal et de pouvoir aller faire un tennis demain. Là, au contraire, et dans ces stages, on va aller regarder avec amour ces messagers. Et donc, cette tension, elle va s'ouvrir, en fait. Donc, je ne sais pas, il n'y aura pas forcément même de tension dans l'épaule, mais peut-être que cette tension ou ce petit truc avant aura permis de mettre la petite puce à l'oreille qui dit bah oui, c'est là où je dois aller voir. Et ensuite, poser cette question, ça peut faire remonter des mémoires, ça peut faire remonter des émotions, etc., etc. Donc, en tout cas, la technique que j'apprends et que j'essaie de transmettre, c'est essayer d'accueillir de manière inconditionnelle tout. Et surtout ce qui nous fait chier, par exemple, même notre mental. Mais c'est une autre manière de rentrer dans un état. Je pense que voilà, il y a différentes manières. Il y en a plein.